01 45 24 7000, Denis nous appelle de l'Isère. Bonjour Denis.
Oui, bonjour, j'aimerais poser une question. Donc à François Barra. J'aimerais savoir si, en tant que force constructive politique, et une fois le groupe parlementaire de l'air constitué au Parlement, ce groupe serait prêt à donner l'habilitation concernant les ordonnances, concernant la loi travail, loi par ailleurs très contestée par 70% des Français. Donc j'aimerais savoir si le groupe LR se positionnera afin de donner de l'habilitation pour que le gouvernement, je me répète, puisse donner l'ordonnance au gouvernement.
De réforme du Code du Travail, ouais. Merci Denis. François Baroin.
Bon, nous nous battons pour avoir la majorité, donc on ne se situe pas dans le positionnement par rapport au texte actuellement présenté par un gouvernement provisoire dont l'objectif est d'avoir une majorité en marche à l'Assemblée et en quelque sorte de n'avoir qu'un face-à-face avec le Front National. Mais sur la question du droit du travail, je le dis, si le texte El Khomri n'avait pas bougé sous les coups de butoir de la gauche au moment du débat, probablement que nous aurions accompagné soit par une abstention bienveillante, soit même par un vote, puisque le texte initial allait dans la bonne direction. Le texte actuel en discussion, nous ne le connaissons pas. Le président Macron n'a semble-t-il pas dit grand-chose aux syndicats, ce qui explique pour l'instant que les échos sont positifs. Une fois qu'on aura le texte, nous avons de ce point de vue des positions qui peuvent établir une convergence. Il n'y aura pas d'affrontement majeur. Il y aura certainement des discussions autour de la problématique du serpent entre le plafond et le plancher des indemnités, mais s'il y a la suppression du compte pénibilité, s'il y a l'ouverture sur les effets de seuil, s'il y a plus de flexibilité, tout ça va dans
mais
la
mais par exemple, le plafonnement des indemnités prud'homales, c'est un point clé pour vous qui était effectivement dans le dispositif précédent.
Moi, je suis favorable effectivement à ce qu'il y ait un plafonnement parce que ça va dans le sens du développement de ce que souhaitent les entreprises, mais il faut également un plancher. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir non plus une absence de garantie sociale pour les salariés.
Oui, non, Thomas Legrand. Le fait que le Premier ministre soit issu de vos rangs peut aider à une meilleure compréhension entre vous et peut-être sur la loi travail à plus de dialogue ou pas?
Je ne crois pas. Ou ça donne... Clairement, c'est pour troubler le jeu dans cette législative, mais ça ne donne strictement aucune garantie, pas sur ce sujet qui n'est pas le plus crispé, mais d'avoir une politique que nous souhaitons, quelques cautions dans un gouvernement de gens sortis de nos rangs.
Pour c'est le Premier semaines. Ministre, comme caution, c'est quand même...
Oui, bien sûr, mais ça ne donne aucune garantie.
Plus le ministre de l'économie, plus celui du budget.
Oui, bonne chance à eux pour porter l'augmentation de la fiscalité et de la CSG, mais ça, c'est leur choix. Aujourd'hui, ils défendent en marche, ils soutiennent des candidats.
François Baroin, des augmentations des chocs fiscaux, non?
Ils soutiennent, on l'avait fait dans un contexte de crise financière extrême.
En 2011,
en 2011, et c'était pour un an ou pour deux ans, c'était pas pour la poursuite de cette politique.
Ça a été une trentaine de milliards.
Mais bref, oui, c'est autant ce qui a été imposé par François Hollande en plus sur les classes moyennes, c'est-à-dire des gens trop riches pour être pauvres et trop pauvres pour être riches, et aujourd'hui qui seront aussi les premières victimes de la politique fiscale.
Ça a été moitié-moitié, oui, effectivement. Qui nous appelle? Richard, depuis... Alors, je ne sais pas si Richard nous appelle des Hautes-Pyrénées ou de Grenoble, ce n'est pas le... C'est de Grenoble, eh ben aussi. Nous vous écoutons, oui, Richard, bienvenue.
Bonjour, voilà, en fait, je demande à M. Baroin quelle était ou quelle serait en fait la position de son mouvement, donc les Républicains, par rapport en fait au soutien qu'ont apporté les gens de Sens commun à la candidature de M. Fillon lors des élections. Bon, pour information, je vous rappelle que Sens commun, c'est issu de la Manif pour tous, une bande de catholiques extrêmes, dangereux, et M. Fillon, en fait, s'est largement appuyé sur eux, notamment sur les relais sociaux. Merci.
Merci, Richard. François Baroin.
Je ne sais pas si monsieur connaît mon parcours et les positions qui sont les miennes, puisque je suis à l'origine d'un rapport pour une nouvelle laïcité qui aboutit à l'interdiction du voile à l'école. Et j'ai été l'objet de très larges caricatures sur la problématique des crèches lorsque les maires de France que je préside ont proposé un vademécum pour rappeler les principes d'un État neutre. Donc je fais l'objet de caricatures moi-même. De même que
ça n'invalide pas la question.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a des caricatures des deux côtés. Moi, ma position, elle est très simple. Nous avons une loi qui est la loi de 1905, qui fixe un État qui est neutre, qui se tient à égale distance de chacune des religions, qui n'en privilégie, qui n'en subventionne, qui n'en salarie aucune, qui les protège toutes, à une condition, c'est qu'on n'accepte pas de fixer les lois de la religion au-dessus des lois de la République, en tout temps, tout lieu, toute circonstance, quelle que soit la religion. Voilà, c'est une position d'équilibre, elle est acceptée par les dirigeants de Sens Commun, et elle est évidemment la ligne, la martingale, le fil conducteur, le fil d'Ariane, de ce qu'est aujourd'hui la formation gaulliste dans la permanence de son attachement à la laïcité républicaine.
Combien de candidats aux législatives sont issus de Sens Commun, François Baroin ?
Alors ça, je vais vous dire, j'ai repris en quelque sorte le train en mouvement, pour ne plus utiliser un terme qu'on ne peut plus utiliser, et je ne saurais pas vous dire...
Vous avez un ordre de grandeur, hier, forcément.
Oui, enfin, ce sont quelques-uns, il y a des gens qui sont par ailleurs objectivement respectables. Vous savez, moi je suis fils de grand maître du Grand Orient, et quand je les ai vus la première fois, je leur ai expliqué que... Ils pensaient peut-être que passé minuit, j'entendais une musique bizarre et j'avais envie, avec les dents qui poussaient, de faire des trous dans la gorge de tout ce qui passait. Donc, vous voyez, on est aussi dans le fantasme et dans la caricature. Voilà, il faut beaucoup d'apaisement. Il y a des gens respectables et qui font l'objet d'un soutien de notre part dans leur candidature. Et qui sont pas des candidatures religieuses. C'est pas des candidatures au nom d'une religion. C'est des candidatures qui soutiennent un projet politique qui est un projet républicain et laïque.
Ils ont brandi des gousses d'ail et des crucifix en vous voyant arriver?
Je l'avais presque dit. Ça les a fait sourire. Ça a détendu l'atmosphère, d'ailleurs.
Très bien. Moi, on me dit qu'ils sont une demi-douzaine à peu près de candidats.
Oui, sur 577.
Voilà, mais qui n'affichent pas...
Ce sont des candidats majorité pour la France, Union de la droite.
Il n'y a pas écrit Sens Commun, etc. Est-ce que vous faites toujours campagne en affirmant que Emmanuel Macron veut taxer les propriétaires de logements ?
Alors, le projet d'En Marche, il est simple. Il vise à concentrer la taxe d'habitation sur 20% de contribuables, ce qui est absolument extraordinaire comme concentration, et ça va toujours être les mêmes personnes qui vont payer.
Le mot dans le programme d'En Marche n'est pas de concentrer cette taxe d'habitation, c'est de la supprimer pour 80%. Il n'y a pas de concentration.
Il me semble qu'il y a assez de propagandistes un peu partout pour qu'à France Inter, on puisse laisser le soin au chef de file de celui qui essaie de construire une majorité pour la France, de dire comment il lit le projet. Et moi, je ne lis pas 80% des gens qui vont plus payer la taxe d'habitation, puisque je peux vous dire que vous avez déjà, et c'est le président des maires de France qui vous le dit, vous avez déjà 42 à 45% des gens qui ne payent pas d'impôts locaux. Vous avez un Français sur deux qui ne paye pas d'impôts sur le revenu. Vous avez 10% des Français qui payent 70% des recettes de l'impôt sur le revenu. Donc il faut arrêter de raconter des histoires. C'est concentrer 20% de la taxe d'habitation.
Alors ça, je suis bien d'accord. Arrêtons de raconter des histoires.
Deuxième élément, vous aurez une surtaxe foncière qui est annoncée dans les échanges qui existent en marche. Troisième élément, vous avez une concentration de l'ISF sur l'immobilier. Donc l'objectif, c'est bien de taper la rente. Et troisième et quatrième point, et ce que je dis, c'est que l'auteur du projet d'En Marche, la plume, celui qui a inspiré, est également l'auteur d'une idée qui vise à imposer les loyers.
C'est faux.
Monsieur, je ne dis pas qu'En Marche n'a pas retiré ce projet, je dis que M. Pisani-Ferry est l'auteur dans le rapport France Stratégie d'un loyer imposé aux propriétaires. Vous ne pouvez pas dire non, M. Cohen, parce que là, vous mentez. Vous savez, je le vois dans mon regard qui frise.
Mais non, c'est faux, c'est absolument faux, mais ça a été démenti dans des dizaines de papiers. France Stratégie a évoqué cette piste, Jean Pisani-Ferry ne l'a jamais reprise à son compte, jamais. Vous ne trouverez pas une déclaration de Jean Pisani-Ferry pour le dire. C'est un bobard absolu.
Jean Pisani-Ferry, qui est l'auteur du projet La Plume, celui qui a inspiré pour une large part, la partie économique, est l'auteur de cette idée, il la porte et il l'a portée, et le projet, et c'est ça qui est intéressant dans le débat politique, qui doit être celui de la clarté pour législative, c'est que c'est un projet fiscal contre les propriétaires, qui vise à tuer la rente, à quelque sorte à faire...
Taper la rente, faire sortir
les éléments du patrimoine, et c'est un objectif qui vise ensuite à déplacer ce patrimoine des Français sur le financement de l'économie à travers les produits financiers, et c'est là où vous retrouvez l'augmentation de la CSG. Puisque les prélèvements sociaux sur les produits financiers sont à 15,5, ils vont monter à 17,2. Donc ce qu'on vous donne d'un côté, on vous le retire de l'autre. Pardonnez-moi, mais je profite de cette campagne pour lever toutes les ambiguïtés qui ont été dominantes pendant la campagne présidentielle.
Y compris en
parlant... Sur ce sujet comme sur les autres.
Y compris en parlant d'éléments de programme qui n'existent pas.
Y compris en rappelant l'origine, la philosophie des auteurs qui ont inspiré En Marche sur l'application du projet économique.
Et sur cette philosophie, taxer la rente, c'est pas une bonne philosophie, selon vous?
En tout cas, moi, je considère que la
propriété... Pour un libéral, généralement, taxer la rente...
Justement, pour un libéral, comme vous dites, la liberté de pouvoir choisir sa vie, de travailler beaucoup pour se constituer un patrimoine et vouloir le transmettre à ses enfants, c'est un projet de vie.
Autant taxer la rente plutôt que taxer...
C'est un projet de vie, et je trouve que ça fait beaucoup sur la taxe d'habitation, sur le foncier, sur l'ISF concentré sur l'immobilier, je trouve que ça fait beaucoup d'attaques qui sont menaçantes pour les propriétaires.
Taxer et la rente, c'est pour déplacer les investissements vers la production.
Oui, qui seront fiscalisés avec la CSG d'une augmentation spectaculaire d'incet, et c'est proportionnel. Le grand problème de la CSG, c'est qu'elle est proportionnelle. Donc plus vous avez, plus vous allez payer. Alors on pourra dire que c'est très bien, mais en même temps l'écart va se creuser. N'oubliez pas, 10% des Français payent 70% des recettes de l'impôt sur le revenu. Et plus d'un Français sur deux aujourd'hui ne paye pas d'impôt local. Voilà. On veut quoi ? On veut faire mourir les classes moyennes et ensuite faire disparaître ceux qui agissent ? Non.